Les échos de vacarme.
Les échos de vacarme.
Les échos de vacarme.
Apprentissage, la voix de son maître.
Laurence Di Félix et Raphaël Bouchet.
Oui, bonjour. Dans ma vie, la première formation que j'avais, on va dire, subie, était dans une maison de publicité à Genève. Je devais aller réveiller le directeur qui n'avait pas encore éliminé son alcool à 11h midi le matin alors que ses clients attendaient. J'allais porter des produits de beauté dans les nightclubs en fin de journée. J'apprenais absolument rien, ce qui fait qu'au bout de 2 ans, j'ai dit que je voulais plus rester là, mais j'ai fini ma 3e année, j'avais eu mon CFC pour avoir la paix et pouvoir partir de chez moi. Et j'ai quitté ce monde affreux des potiches, secrétaires, sténodactylographes. C'était une immersion dans le monde des adultes que je suis pas prête d'oublier. Et puis voilà.
Alors moi, je commençais à la Migros dès le jeune âge. Ils m'ont fait tester tout. De rayons de fromage à la coupe, traiteur, et ils m'ont fait la gestion et j'ai mémorisé tous les produits, quel que soit. Mon directeur et la responsable des caisses, ils ont remarqué que pour moi, ce qui était le mieux, c'était soit l'informatique, soit tout ce qui était gestion, mais beaucoup plus profonde. Moi, ça m'a servi. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que on arrive dans une génération des jeunes qui veulent apprendre. Ils veulent savoir que c'est leur voix. Alors, il faut que les profs, ils reprennent à transmettre toutes les connaissances au maximum à chacun des apprentis.
J'ai commencé en 1971 et terminé en 1975 un apprentissage de monteur, essayeur, copiste en offset. Je l'ai su par la suite que j'étais la première fille à avoir obtenu le CFC de cette profession. Les 3 premiers jours en entreprise, je pense que toute l'entreprise a défilé pour voir le phénomène. Donc la fille qui faisait un apprentissage de garçon. Mais cette fille, elle a aussi servi à nettoyer le vendredi après-midi, ce que des générations d'apprentis garçons n'avaient pas fait. Malgré tout, je garde un excellent souvenir de toute cette période et de ce métier qui était magnifique et qui malheureusement n'existe plus aujourd'hui. Merci, au revoir.
Les échos de vacarme.
Bonjour à vous et merci pour ces messages. L'apprentissage reste aujourd'hui encore la voie la plus suivie en Suisse. 2/3 des jeunes choisissent l'un des 230 métiers possibles à la fin de l'école obligatoire. Et la formation duale, c'est-à-dire 4 jours en entreprise et 1 jour à l'école professionnelle, suscite même l'admiration de nos voisins européens. Elle est considérée comme un modèle de réussite et un excellent moyen pour les jeunes d'intégrer le marché du travail. Mais qu'en est-il réellement sur le terrain? Ce matin, dans les échos de vacarme, nous parlons des évolutions récentes de l'apprentissage, de ses zones d'ombre aussi, et des défis auxquels sont confrontés au quotidien les formatrices et formateurs d'apprentis qui effectuent un travail aussi fondamental que peu reconnu. Bonjour Nadia Lamamra.
Bonjour.
Vous êtes sociologue, professeur à la Haute École Fédérale en formation professionnelle à Renan, et vous avez mené plusieurs études sur le sujet de l'apprentissage.
Absolument.
Et je vous salue aussi Yves Girard.
Bonjour. Bonjour.
Vous êtes secrétaire patronal de l'association des boulangers, pâtissiers, confiseurs vaudois et directeur de boulangerie et confiserie formation Vaud. Ma voix flanche un peu, mais j'espère que par la magie des ondes, elle porte au moins jusqu'à Lugano où vous êtes en ce moment chez notre consoeur de la RSI que je salue et remercie au passage. L'un et l'autre, j'aimerais vous demander d'abord qu'est-ce qui vous interpelle dans les messages qu'on vient d'entendre. Nadia Lamamra, alors vous, je vous vois, vous êtes en face de moi. Vous avez pris des kilomètres de notes.
Ce qui m'a interpellée dans plusieurs de ces témoignages, c'est ces fameuses figures de l'apprenti du poteau, hein, à qui on demande de faire des tâches subalternes, et le fameux sale boulot, qui évidemment en plus se manifeste différemment si on est une fille dans un métier atypique ou un garçon. Mais effectivement, la position d'apprenti tout en bas de la hiérarchie de l'entreprise renvoie souvent à ce sale boulot qui est difficile à comprendre pour les apprentis qui viennent pour apprendre un métier, qui ne savent pas toujours pourquoi on les renvoie à ce type de tâches, même si parfois ça fait partie intégrante du métier. Dans un salon de coiffure, il faut balayer les cheveux, ça c'est normal. Mais effectivement, ce statut d'apprenti ressortait très fort.
Yves Girard, vous, ces souvenirs d'auditrice, est-ce qu'ils font écho aux vôtres quand vous avez commencé votre apprentissage ?
J'ai retrouvé en tout cas pas mal de similitudes, mais par contre, ce que je soulève d'abord, c'est l'évolution de ces professions par rapport à dans les années 70-70 à aujourd'hui. On n'est plus du tout dans le même schéma, heureusement aujourd'hui. Mais effectivement, pour ma part, j'ai vécu un peu ce qui a été dit dans ces commentaires de début d'émission, avec un manque de présentation du métier, un manque d'aptitude à apprendre. Ça se faisait... ils ne savaient pas faire à l'époque. Donc voilà, moi, c'est ce qui m'a marqué, c'est cette évolution entre tout ce qui a été mis au niveau de la formation des formateurs aujourd'hui par rapport à l'époque, en 1975, où rien n'était fait.
Et dans le secteur de la boulangerie en particulier, est-ce qu'on accueille mieux les filles aujourd'hui ?
Alors, il faut savoir que dans le secteur de la boulangerie, de la pâtisserie, de la confiserie, les filles sont aujourd'hui en majorité. Et il y a déjà quelques années que c'est le cas. On a plus de filles que de garçons qui font le métier, même de boulanger. Donc ça fait assez longtemps que le métier s'y est fait et à bonne heure, quelque part.
Mmh. Nadia Lamamra, vous avez co-signé la première étude sur les formatrices et formateurs d'apprentis. Pourquoi ces personnes, presque jusqu'à aujourd'hui, étaient restées dans l'ombre ?
Alors c'est vrai qu'au départ c'était un grand mystère pour nous, on se disait c'est les personnes pivots du système dual, de ce système suisse tellement vanté, et on ne sait rien, il n'y a aucune statistique, on n'a pas trouvé de statistique à l'Office fédéral de la statistique, on n'a pas trouvé de données non plus au CEFRI, et donc effectivement c'est un double angle mort, il y a l'angle mort du volet entreprise, donc finalement à part les travaux sur les coûts et bénéfices de former des apprentis, il y a très peu de travaux sur le volet entreprise et la formation professionnelle, et puis encore moins sur les formateurs et formatrices en entreprise. Il faut dire qu'ils sont doublement invisibles puisque leur métier premier n'est pas d'être formateur, formatrice. Ce sont des ferblantiers, des maçons, des maçonnes, des gestionnaires du commerce de détail. Et puis, dans les statistiques, ils n'apparaissent pas. Effectivement, si on vous demande votre métier, vous allez dire gestionnaire du commerce de détail, infirmière, etc. et pas formateur ou formatrice en entreprise. Donc là, effectivement, on ne les voit pas et leur travail est malheureusement encore assez faiblement reconnu malgré l'importance centrale de leur rôle.
Mmh. Vous, ce rôle, Yves Girard, vous l'avez occupé vous-même, vous l'avez exercé vous-même, vous avez aussi formé des personnes en entreprise. Pour vous, de manière empirique, comment vous décririez cette tâche ? Qu'est-ce que c'est pour vous un bon formateur, une bonne formatrice ?
Le bon formateur, déjà, il doit aimer ce qu'il fait, il doit pouvoir former. On doit apprendre à former. C'est pas une tâche indue, c'est pas quelque chose qui va arriver par soi-même. J'entends, on doit être en tout cas accompagné. Et c'est ce qu'on voit malheureusement un peu trop encore aujourd'hui. On a quelque part en face de nous des bénévoles. Ce sont pas des personnes qui ont cette tâche dans l'entreprise. Elles font partie de l'entreprise et on leur demande de former. Voilà, là on a beaucoup de choses à faire dans ce domaine-là. Apprendre à former, c'est quand même quelque chose qui doit être reconnu. Et on devrait peut-être mieux mettre en avant cette... c'est pas une profession, c'est en tout cas une tâche, une fonction dans l'entreprise particulière. On parle de responsable de qualité, on parle de responsable de la sécurité au travail, mais on parle très peu de responsable de formation professionnelle dans les entreprises.
Alors on va justement discuter de ça après l'écoute du premier extrait des reportages diffusés cette semaine. Pour devenir formatrice ou formateur d'apprentis, il faut justement suivre 40 heures de cours qui sont obligatoires. Et notre reporter Catherine Erard s'est immiscée dans une formation donnée à Bussigny par Théodore Maïs.
La semaine prochaine, vous allez être amené à former un apprenti, une apprentie, sur un geste professionnel de votre profession. Vous visualisez une tâche ou une activité que vous confiez à votre apprenti, et puis vous la déclinez en processus d'instruction en un seul objectif, s'il vous plaît. Un seul.
Vous avez amené des vêtements ?
Des pantalons, des jupes, t-shirts.
Ok, très bien.
Puis faire, justement, conseil aux...
Une simulation de vente.
Exactement.
Excellent. Très bien.
Moi, je crois que je vais partir sur autre chose.
Ah, ok.
Préparation d'une guitare.
Préparation d'une guitare.
Ouais. Oui, parce que pour les clients, on prépare les guitares avant de les envoyer. Du coup, faut regarder s'il y a des égratignures, s'ils ont pris des coups.
Vous êtes dans quel domaine ?
Dans la vente en gros pour les accessoires et instruments de musique.
Pour garantir l'atteinte d'un objectif, eh bien, par l'apprenti, il faut soigner sa formulation. Donc c'est pour ça que je vous mettais sur la piste avec un début d'objectif qui pourrait être à l'issue de cette séquence de formation, mon apprenti sera en mesure de. Soyez créatif. Faites la démonstration de vos métiers.
Pourquoi est-ce que vous êtes devenu formateur ? C'est vous-même qui avez choisi ou c'est vos responsables qui vous ont désigné ? Comment ça s'est passé ?
Alors pour moi, c'était sur le besoin. Il y avait besoin d'un formateur et puis j'étais le seul d'avoir un CFC, malheureusement, et puis ça a été moi.
Malheureusement, vous dites ?
Enfin oui, heureusement. Malheureusement, heureusement.
Vous avez déjà des apprentis là ?
J'ai une apprentie en deuxième année, oui.
Et comment ça se passe pour vous ?
Pour l'instant, ça va. J'apprends comme elle en même temps parce que je suis en formation actuellement. Donc ce que j'apprends, bah, je le pratique. Puis petit à petit, je pense qu'on fera du bon travail.
Moi, c'est une collègue qui était formatrice qui a décidé d'arrêter. Et puis il a fallu prendre le relais. Voilà.
Et vous êtes plutôt mi-figue, mi-raisin.
Voilà, exactement.
Pourquoi ?
Vis-à-vis d'apprentis, c'est très bien. Quoi. Il faut qu'on le suive, mais... C'est pas facile à gérer avec tout le travail qu'on a à côté.
On vous accorde pas du temps supplémentaire pour l'apprenti ?
Non, ça fait partie de notre pourcentage.
Et c'est pour ça que votre collègue a arrêté ?
Oui. Oui, mais là on est deux, on s'est mis à deux pour former l'apprenti.
Vous avez déjà des apprentis ?
Oui, j'ai des apprentis.
Qu'est-ce que vous aimez bien ?
Moi ce que j'aime c'est avoir l'occasion de transmettre le bagage que j'ai et puis pas le garder pour moi, j'aime communiquer, j'aime bien transmettre les choses en fait. Et puis c'est ce qui m'anime en fait, partager mon savoir.
C'est aussi une évolution un peu dans votre carrière. Hein.
Ouais, aussi. Ouais, pour le CV, le parcours curriculum vitae, c'est magnifique de pouvoir dire que on est capable de transmettre ce qu'on connaît déjà. C'est-à-dire qu'on l'a déjà bien compris.
Vous avez quel souvenir de votre apprentissage les uns les autres ? Vous avez été des bons apprentis ou ça a été compliqué ?
Un bon apprenti, je dirais oui et non. Voilà, j'avais mon caractère, donc c'était pas facile de qu'on me dirige moi, mais après, j'ai appris à accepter, et puis c'était pas facile, parce que c'est beaucoup plus dur d'être un apprenti qu'être un formateur.
Du coup, vous avez l'impression que vous êtes plus compréhensif par rapport à vos apprentis qui ont du mal à vous obéir, ou je sais pas ?
À 100%, ouais. Exactement.
Il y a une valorisation salariale, le fait d'être formateur ? Vous êtes payé un peu plus ou même pas ?
Je crois. Non. Aucune idée.
Non.
Non, ça n'a pas été évoqué. Dans mon entreprise, ça n'a pas été évoqué. Donc, puis quelque part, j'attends pas une valorisation par rapport à ça. La valorisation, c'est s'ils réussissent au CFC, ce sera ça la valorisation, au final. Enfin, moi, je l'entends comme ça.
On vient d'entendre des personnes plus ou moins heureuses de former. Ce sentiment mi-figue, mi-raisin, Nadia Lamamra, vous l'avez croisé souvent lors de votre enquête sur les formatrices, formateurs d'apprentis.
Alors, on l'a croisé un certain nombre de fois. Alors, voilà, vous avez des très beaux témoignages. Donc, les gens qui osent aussi vous dire que c'est pas si évident. Mais c'est que ça montre un peu la manière dont on accède à cette fonction. Alors, il y a bien sûr les personnes qui choisissent et qui rêvent de former des apprentis et de transmettre. Il y a la désignation. C'est ce qu'on a un peu entendu là. Hein, c'est, il faut quelqu'un. Il y a plus, la personne prend sa retraite ou est partie ou veut s'arrêter. Et puis, il y a les personnes, c'est un truc un peu entre deux. On a appelé ça une opportunité transformée. Donc, c'est une désignation qu'on transforme en opportunité en se disant finalement pourquoi pas, ça pourra peut-être me faire faire d'autres tâches et découvrir d'autres choses. Et évidemment, ces modes d'accès ont un impact sur la manière dont on va s'engager dans la fonction et la posture de formateur ou formatrice qu'on va ensuite avoir. Et donc là, on avait une doctorante dans le projet, Roberta Bezotti, qui avait travaillé un peu sur ces postures de formateur et formatrice. Et elle en a trouvé quatre, ce qu'elle a appelé les entrepreneurs de soi, donc des gens qui sont plutôt orientés sur la créer de la relève, dans une logique plutôt économique, avec un grand discours sur l'autonomie des apprentis. Les garantes et garants du métier, donc les personnes qui sont vraiment là pour porter le métier, pour porter la passion du métier, transmettre l'amour du métier. Et donc là, c'est évidemment une toute autre manière d'être dans une posture de formateur. On transmet vraiment quelque chose de fondamental, le cœur du métier. On s'inscrit aussi dans une tradition plus corporatiste, le modèle du maître d'apprentissage. Et puis les reconvertis, qui sont des personnes qui sont plutôt dans une logique d'enseignement, qui ont rêvé d'être enseignant, puis qui trouvent justement l'occasion, en étant formateur en entreprise, de transmettre un métier, des savoirs, des savoir-faire.
Et vous, Yves Girard, quel formateur êtes-vous ?
Quelque part, un peu les trois cas qui ont été cités là, il faut effectivement soigner la relève. Ça, c'est un passage obligé pour nos métiers. Hein. Par contre, on est également des garants du métier. Et puis, personnellement, je suis également un reconverti puisque je suis parti d'une base professionnelle boulanger-pâtissier au départ et je suis devenu formateur et ensuite formateur d'adultes et ensuite j'ai pris une activité plus administrative dans les organisations fêtières. Voilà. Donc, on a besoin d'avoir, je pense, toute cette palette de formateurs.
Et à quels défis sont confrontés les chefs d'entreprise qui forment ? Puisqu'on l'a bien entendu, il faut continuer à produire et on se forme parfois sans temps, sans argent supplémentaire.
Oui, je pense qu'il y a quand même un aspect dans le rôle du formateur, c'est la gestion aussi, la gestion des situations difficiles. Il y a des étapes de formation à respecter. C'est pas si simple de devenir formateur. Et moi, j'apprécie énormément la modification des cours CFFE, anciennement CMA, où on a commencé à donner des... On a commencé à donner des tâches aux formateurs qui sont inscrits aux cours. Par le passé, c'était que des cours où on apprenait que des choses écrites et orales. Aujourd'hui, on fait faire. Et je pense que dans les entreprises, les formateurs ont besoin, comme les apprentis d'ailleurs, de faire pour apprendre. Et aujourd'hui, les CFFE sont de haute qualité. Par contre, moi, ce que je regrette dans la formation des CFFE, c'est les 40 heures de départ. Et ensuite, on donne un permis de conduire et on ne contrôle pas la validité de ce permis de conduire tout au long de la vie. Ça, c'est quelque chose peut-être qui doit être amélioré. Oui. Voilà. Mais les CFFE, aujourd'hui, ont une importance capitale dans le rôle qui est donné aux formateurs.
CFFE, dites-nous juste ce que veut dire cet acronyme.
Un cours de formation pour formateurs en entreprise.
D'accord. Parce qu'effectivement, 40 heures obligatoires, ça semble beaucoup quand on a soi-même une grande charge de travail, mais c'est aussi très peu pour former la relève. Nadia Lamambra.
Oui, alors c'est très peu. Ben, c'est vrai que par rapport à tous les autres acteurs de la formation d'adolescentes et d'adolescents, c'est rien du tout. Après, c'est vrai que c'est une négociation avec les entreprises. Hein. Libérer leur personnel, 40 heures, c'est déjà une grande chose. Et donc, c'est pour ça qu'on est à ce nombre d'heures-là. Dans la loi, on peut aller jusqu'à 100 heures, mais il y a très peu de cantons qui le font. Par contre, comme M. Girard le disait très justement, je pense que ce qu'il faudrait vraiment soigner, c'est la formation continue, puisqu'il y en a très peu. Il faut savoir aussi que les personnes formatrices en entreprise vont privilégier la formation métier, dans les formations continues, hein, de se mettre à jour, de rester à la page. Et je pense qu'une manière peut-être de leur donner de la reconnaissance, ce serait de leur donner un droit étendu à la formation continue, avec aussi des formations continues pédagogiques.
Monsieur Girard, vous disiez en début d'émission que la formation et peut-être le statut des apprentis avaient énormément évolué avec les années. Est-ce qu'aujourd'hui, vous diriez qu'il s'agit pour les formateurs, formatrices d'apprentis d'avoir une vision beaucoup plus globale de la personne qu'ils ont en face d'elles et eux, et d'apprendre à connaître l'autre de manière peut-être moins distante qu'auparavant ?
Alors totalement, et vous preniez l'exemple au début en demandant comment on avait été, nous, apprentis au départ, on s'inquiétait pas beaucoup de la personnalité de l'apprenti qui arrivait dans une entreprise. Aujourd'hui, c'est primordial, l'apprenti doit se sentir, c'est la pyramide de Maslow, hein, quelque part, elle doit se sentir déjà reconnue. Et là, il faut absolument qu'on appuie là-dessus, sur le fait qu'on doit connaître la personne que l'on forme. Par contre, on ne doit pas non plus aller au-delà de son degré de compétences. Il y a des structures et il faut faire appel à d'autres structures pour régler des problèmes. On ne peut pas, en tant que formateur en entreprise, on demande aux formateurs en entreprise d'être formateur en entreprise et non psychologue quelque part. Et il faut absolument que chacun puisse occuper le poste ou la fonction qui lui est attribuée en termes de formation professionnelle.
On l'a entendu pourtant dans les reportages de la semaine que parfois cette fonction dépassait largement le cahier des charges. Et vous êtes quelque part parfois aussi amené à faire un peu de social.
Oui, mais il faut aussi savoir s'appuyer sur les organes en tout cas dans le canton de Vaud, on a quand même pas mal de choses qui sont mises en place pour la surveillance de l'apprentissage. Et on a de cesse d'appeler les entreprises à leur faire comprendre qu'il y a un stade où on doit faire appel aux structures mises en place pour régler certaines situations, on ne peut pas les régler par soi-même.
Nadia Lamambra, vous souhaitiez intervenir ?
Oui, ben c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a beaucoup vu dans notre recherche. Et c'est vrai que les personnes nous disent bien qu'elles ont un rôle, qui est celui de transmettre des savoirs, des savoir-faire, des savoir-être. Et puis, finalement, elles ont beaucoup, beaucoup de casquettes, dont des casquettes de professionnels de référence, évidemment, mais aussi d'adultes de référence, parfois presque de figures parentales. Et même si elles nous disaient souvent qu'elles mettaient bien le cadre, on voit que ça déborde. On est dans dans une histoire relationnelle. On a des apprentis avec lesquels on tisse des liens. Et souvent, ces mêmes personnes qui nous avaient expliqué au début de l'entretien qu'elles posaient un cadre très strict nous expliquaient que finalement, dans telle situation, elles avaient hébergé leur apprenti ou elles étaient intervenues. Donc c'est vrai que dans les offres de formation continue qu'on aimerait développer, c'est aussi souligner l'existence de tous les acteurs du réseau pour que ces personnes puissent justement faire appel aux personnes compétentes et pas être complètement seules avec toute cette charge aussi parfois émotionnelle qui s'ajoute.
Et pour parler d'aspects peut-être plus positifs, Yves Gérard, est-ce que vous diriez aussi, à contrario, qu'aujourd'hui les apprentis sont meilleurs que ceux d'hier ?
Alors ça, j'en suis persuadé. Je suis le parfait exemple, pour avoir commencé à la base du métier, de voir que nos apprentis de première, de deuxième année même, et de troisième année encore mieux, sont bien meilleurs et savent plus de choses, sont bien plus intéressés par ce que l'on dit du métier que nous l'étions nous à l'époque. Alors ça, j'en suis, mais persuadé. On a vraiment affaire à des jeunes vraiment qui ont envie d'apprendre quand ils sont bien dans leur situation, quand ils sont bien dans le métier qu'ils ont choisi par eux-mêmes.
Donnez-nous un peu un exemple de quoi nous mettre l'eau à la bouche dans le secteur de la boulangerie, pâtisserie, confiserie.
Un exemple. Alors nous, on fait pas mal
qui vous aurait impressionné.
Oui, on fait pas mal de concours. On vient d'en faire un, d'ailleurs, le week-end passé sur le site de Ballenberg, lors d'une fête particulière, où une apprentie que nous avons d'ailleurs dans notre entreprise a terminé sur le podium à la première place. Quand j'ai vu sa pièce en chocolat qu'elle a présentée, je suis pas capable de la faire. C'est bien clair.
Alors décrivez-la, à défaut de la faire.
C'est un arbre avec un tonneau fendu au milieu, des grappes de raisin, puisque le thème était le canton de Vaud, et des grappes de raisin à l'intérieur. Et c'était un peu comme dans un bateau perdu sur la mer, un tonneau partagé en deux, tenu par un arbre au milieu et des grappes de raisin qui en découlaient, qui pendaient. C'était vraiment fabuleux.
Vous l'avez goûté ?
Ah non, ça c'est des pièces d'exposition, ça se goûte malheureusement pas. D'accord. C'est du chocolat qui n'est pas très bon puisqu'il a été manipulé par pas mal de mains.
Nous parlons des apprentissages en général et de la formation des apprentis en particulier jusqu'à 10h dans les Échos de Vacarme. Alors c'est pas encore tout à fait l'heure du dessert et du chocolat, mais dans quelques instants nous rendrons justement visite à un chocolatier et à son apprenti. Mais tout de suite, voici Oxmo Puccino sur la première.
La vie est une chance, le reste du mérite. Même quand t'as pas assez souffert, c'est terrible. Ne pas savoir miser sur la bonne personne, perdre la chemise à la mauvaise somme. La poisse t'appelle par ton diminutif, chaque décision définitive. Si tu cherches l'amour, c'est que tu l'as laissé passer. Tes battements de cœur, ils vont s'espacer. Accepter que t'étais pas prêt, ce qui marche pas sera pour la fois d'après. Une chance. De rigolade, attends pas stress, t'as quatre feuilles ou c'est la dégringolade. Le perdant pleure, mais la victoire est amère, même plus que la défaite. Demande à ta mère, les gens prennent un guide et lui marchent dessus. Un appel bidon, moi j'enfile un par-dessus, car elle ne sourit qu'aux audacieux, inaperçus, pour qui aucun effort n'est superflu. Ils savent pourquoi on est tous mal, parce qu'on part en guerre avec une seule balle. Destin pas tous la baraque, tout le monde ne passera pas du bar à table. C'est une vision du bonheur, c'est voir le jour au crépuscule et trouver des couleurs. Marie, ma virus positif, pique mes flowers, la voix brise le tissu. J'suis puis le postillon contre l'incendie. La société offshore contre 20 centimes. La fortune, faut la saisir, pas l'étrangler. Ou au dîner de la joie, tu seras l'étranger. Espérer, c'est l'évasion. Caresser, l'occasion, puis l'éclosion.
Emma, qu'est-ce que tu penses de cette ganache, Emma?
Elle donne envie.
Elle donne envie.
Oui.
Elle est onctueuse. Et la coupe, elle est super précise. Ça, c'est vraiment toujours très important. Hein. Combien de temps on va les mettre à laisser rétracter avant l'enrobage, tu sais?
48 heures.
Voilà, exactement. Donc, un chocolat au foncé, on va laisser 48 heures avant d'enrober. Et le chocolat au lait, on va laisser un jour de plus, 72 heures. D'accord? Qu'est-ce qui se passe si on ne laisse pas s'y rétracter, tu sais?
Ça va se rétracter avec, dans le chocolat.
Voilà, c'est juste, exactement. Donc tu auras une couche de vide entre la ganache et le chocolat. Et là, c'est dangereux au niveau de la conservation du produit. Bon, on va continuer à aligner ces ganaches.
Emma, est-ce que vous êtes en première année d'apprentissage?
Non, je commence ma dernière année. Mes deux premières années, c'était en boulangerie, puis après j'ai changé d'orientation, j'ai fait de la confiserie.
Christophe Moret, vous avez toujours eu des apprentis?
Oui, j'ai toujours formé des apprentis. Avant, je formais des apprentis dans l'ensemble de la profession, boulanger, pâtissier, confiseur, parce qu'on exploitait une tea room avec une pâtisserie. Et maintenant, depuis 7 ans, on a pris l'orientation de faire plus que du chocolat. Donc pour nous, c'était plus possible de former des apprentis dans l'entier de la profession, étant donné qu'il nous manquait la partie pâtisserie.
Et aujourd'hui, qu'est-ce qui vous permet à nouveau d'accueillir des apprentis?
Pendant le laps de temps, on a arrêté de former. Le réseau de formation s'est mis en place sur le canton de Vaud. Et en fait, le réseau engage des apprentis et cherche des entreprises partenaires pour justement placer ces apprentis.
Qui est-ce qui est responsable de vous? C'est qui votre maître d'apprentissage dans ce système de réseau?
C'est Christian Muster au réseau, qui est lui responsable de moi. Et après, c'est les patrons de chaque entreprise qui sont là aussi pour me former.
Moi, je m'occupe vraiment que de la partie former, apprendre les bonnes pratiques de la profession, comment on fait dans notre entreprise. Toute la partie administrative, on ne s'en occupe pas. C'est vrai que quand vous formez un apprenti, vous engagez un apprenti sur 3 ans, l'apprentissage est très long, c'est-à-dire qu'on va passer plus de temps avec les apprentis qu'avec nos propres enfants. Donc c'est vrai qu'au bout d'un moment, on peut avoir une lassitude, on peut avoir des tensions qui se créent, surtout dans des jeunes adultes, hein, on évolue énormément, des fois c'est des confrontations qui se créent. Des fois, on perd un petit peu la motivation au fil des mois et des années.
Là, s'il y a un problème, vous en référez à Monsieur Muster du réseau et ce n'est pas vous qui directement allez gérer ça.
Voilà, exactement. S'il y a vraiment un problème structurel d'intérêt entre deux personnes, voilà, Monsieur Muster va intervenir. Comme ça, on ne va pas s'entêter à continuer une formation dans l'entreprise. On va simplement déplacer l'apprenti vers un autre patron. Et puis, comme ça, on évite aussi peut-être des ruptures d'apprentissage. Donc, plus d'apprentis, mieux formés, je pense que c'est tout bénéfice pour tout le monde. On va enrober avec un chocolat noir à 62% de cacao. Est-ce que tu sais qu'est-ce que ça signifie, un chocolat noir 62% de cacao?
Non.
Le pourcentage de cacao qui est indiqué, ça veut dire que tu auras 62% de cacao et le reste, ce sera du sucre. Nous, maintenant, ce qu'il faut faire attention dans notre profession, c'est qu'on doit toujours baisser le sucre dans tout ce qu'on fait. Après, maintenant, on peut aussi remplacer le sucre par d'autres produits. Mais pour le moment, nous, on a pris la décision de ne pas le faire. On essaye de désucrer, baisser le sucre, mais pas de le remplacer pour le moment. D'accord ?
Oui. Le chocolatier Christophe Moret et Emma, son apprenti, étaient au micro de Catherine Erard. Nadia Lamamra, comment vous réagissez à ces propos? D'abord, on a retrouvé cette figure parentale dont vous parliez tout à l'heure. Passer plus de temps avec ses apprentis qu'avec ses enfants. Et puis là, on entend vraiment quelqu'un qui a réussi à trouver le moyen de prendre du temps pour ses apprentis autrement.
Oui, alors bon, c'est intéressant parce qu'effectivement, cette figure parentale, elle est très convoquée par les formateurs et formatrices quand ils nous parlent de leur quotidien, quand ils nous parlent aussi de des compétences nécessaires. Ils font beaucoup de parallèles avec le fait qu'ils ont des enfants qui savent déjà faire, qu'ils ont des adolescentes à la maison. Et donc, c'est vrai que c'est là que c'est intéressant aussi par rapport à la fameuse limite des rôles dont on parlait avant, que eux-mêmes convoquent cette figure parentale pour expliquer un peu comment ils s'en sortent avec leurs apprentis ou... Voilà. Puis effectivement, au quotidien, ils passent vraiment beaucoup de temps ensemble. Moi, ce que j'aime bien dans cet extrait, c'est qu'on a vraiment le moment privilégié des formateurs et formatrices en entreprise, les moments qu'ils aimeraient avoir les plus nombreux possibles. Donc ces moments de transmission vraiment formels, où on a le temps de montrer, d'expliciter, de poser des questions, de faire et de regarder comment l'apprenti se débrouille. Et puis malheureusement, c'est vrai que le quotidien des formateurs et formatrices en entreprise ressemble pas toujours à ça. Nous, on a fait en plus des entretiens avec ces formateurs, formatrices en entreprise en Suisse romande. On a fait un certain nombre d'observations dans les entreprises, donc on les suivait toute la journée et on les voyait surtout courir d'une tâche à l'autre, d'une activité à l'autre. On a remarqué effectivement qu'il y a cette tension entre la logique de la production et la logique de la formation. Dans certains, notamment petites entreprises, la logique de la production domine et donc la formation, on la fait quand on peut. Et voilà, ce qui apparaît, c'est un temps fractionné, interrompu par la clientèle, par d'autres urgences dans l'entreprise, et puis un temps qui manque. Donc, c'est les 80 entretiens qu'on a fait, on avait une réponse qui était toujours la même, une question générale à la fin de l'entretien sur qu'est-ce que vous aimeriez dans l'idéal, et ils nous répondaient toujours plus de temps pour former.
Et vous, dans l'idéal, Yves Girard, je vous retourne la question.
Déjà, j'aimerais juste préciser que, sans le savoir, Emma, dont on parlait dans le reportage, c'est l'apprentie dont je vous parlais tout à l'heure.
Ah, incroyable. Eh bien, nous la félicitons.
Voilà, ceci étant dit, moi, ce que je dis tout le temps aux entreprises, aux formateurs dans les entreprises, afin qu'ils aient un petit peu... Monsieur Moret est assez paternaliste dans sa manière de former, mais quelque part, il essaye de bien comprendre si l'apprenti a bien compris, et je trouve que ça, c'est primordial. Moi, je dis quand même à nos formateurs tout le temps, on se souvient toujours de son maître d'apprentissage toute sa vie. Donc, il faut autant que faire ce peu, le contact soit correct jusqu'au bout et qu'on se souvienne d'un maître d'apprentissage qui nous a appris le métier et pas différemment. Mmh. Voilà, moi, c'est la leçon que j'en retire quelque part dans tout ça, c'est que nos formateurs ont aussi leurs soucis, ont effectivement pas toujours le temps de consacrer à l'apprenti, le temps nécessaire à consacrer à l'apprenti. Mais on se souviendra toujours de son formateur. Et ça, je pense que si le formateur l'a en arrière dans sa mémoire, il formera d'autant mieux.
On a entendu dans ce reportage la question du réseau. Comment est-ce que votre profession s'est réinventée ou a dû se réorganiser il y a quelques années?
Alors, effectivement, Monsieur Moret en fait mention du réseau d'entreprises formatrices. On était arrivé au constat, il y a quelques années en arrière, lors de la refonte des métiers de boulangerie-pâtisserie et de pâtisserie-confiserie, dont le CFRI en a fait qu'une seule formation avec des secteurs boulangerie et confiserie, mais j'entends c'est une seule profession. Nous avions de la peine à recruter des apprentis en confiserie particulièrement et que la formation de confiserie était devenue quelque part une prolongation d'apprentissage de boulanger-pâtissier. Et ça nous a quand même inquiété. On a réfléchi à la situation, on a mis sur pied un réseau d'entreprises formatrices pour permettre à des entreprises qui n'arrivent plus à former, telles que le précisait Monsieur Moret, et il y en a d'autres, qui se sont sectorisées. Alors on peut avoir des entreprises où on va avoir plus de pâtisserie. Chez Monsieur Moret, c'est que du chocolat, je veux dire, c'est beaucoup, mais je veux dire, il ne fait pas le reste du plan de formation. Et ceci dans plusieurs mesures. On a aussi maintenant des boulangers qui sont spécialisés dans la boulangerie, mais ils ne touchent pas à la pâtisserie, ce qui fait qu'ils ne peuvent plus remplir le plan de formation qui a été édicté alors par les branches professionnelles elles-mêmes, mais quand même avec le CFRI derrière pour valider tout ça. Donc nous avons décidé de mettre en place un réseau d'entreprises pour essayer de mettre en relation des apprentis et de les orienter dans des entreprises pour avoir au final l'entier du plan de formation effectué. Et nous, le réseau, quelque part, il est là le garant de cette formation, contrôle que l'apprenti a bien effectué les travaux nécessaires à l'obtention de son CFC et à la fin organise son examen, puisque on a plusieurs entreprises qui auront travaillé sur la formation de l'apprenti, mais il faut que tout puisse être fait dans le même local pour l'examen. Donc le centre professionnel de Puy offre aux apprentis la possibilité de passer leurs examens dans des locaux de cours inter-entreprises sur le site de Puy.
Combien vous avez d'apprentis aujourd'hui dans le canton de Vaud ?
Alors des apprentis en boulangerie, pâtisserie, confiserie, on en a 180, entre 170 et 200, je dirais, ça dépend des années. Mais il est vrai qu'à un moment donné, au niveau de la confiserie, où il y en avait 30, 35, nous étions descendus à 9 une année. Donc là, on s'est quand même posé la question de qu'est-ce qu'il fallait faire. Et en créant ce réseau d'entreprises, nous, on forme... En principe, on engage 12 apprentis, ou en tout cas, on a 12 apprentis en formation dans le réseau. Pour des questions d'assurance qualité, quelque part, il faut aussi qu'on puisse les suivre. Et voilà.
Et qu'on vous comprenne bien, donc ce réseau, ça sert par exemple à quelqu'un de se former 6 mois chez un boulanger, 6 mois chez un pâtissier, pour pouvoir avoir une formation globale. Mais alors
exactement.
Ça veut dire que ça demande quand même pas mal de flexibilité et peut-être aussi de maturité de la part des apprentis.
Alors c'est aussi le critère de départ d'engagement, hein, où on regarde si la personne a les dispositions nécessaires, a la possibilité d'être mobile, ou a aussi envie, hein, on le voit lors des entretiens, si l'apprenti a vraiment envie de pouvoir et peut le faire. Mais on arrive à trouver des candidats qui, jusqu'à présent, on n'a pas eu d'échec, hein, mais où on a quand même eu à résilier un ou deux contrats pour des raisons X ou Y, hein, qu'on va retrouver dans toutes les entreprises. Mais jusqu'à présent, le réseau a bien fonctionné dans ce cadre-là.
Le réseau, le fonctionnement en réseau, Nadia Lamamra, est-ce que c'est un modèle à suivre et qui est déjà suivi par d'autres secteurs ?
Oui, alors je pense que c'est un modèle extrêmement intéressant. Alors pour l'instant, je crois dans l'étude de Christian Imdorf, il parle de 3% des entreprises formatrices qui sont des réseaux d'entreprises formatrices, donc c'est encore relativement petit, mais je pense que c'est vraiment une piste à suivre pour plein de secteurs d'activité, notamment pour toutes ces micro-entreprises, puisque la majorité des entreprises formatrices, c'est des PME et des micro-entreprises. Et donc, c'est vraiment un vrai soutien de s'organiser en réseau, puisqu'il y a un partage des tâches administratives, un partage des tâches de gestion aussi de l'apprenti, et puis en tournus, ce qui permet effectivement de fonctionner mieux, je pense. Hein. C'est vraiment des belles solutions. Je pense qu'en termes de questions relationnelles, qui sont quand même au cœur de toute une série de raisons de résiliation de contrat, ça permet aussi d'alléger passablement. Donc si ça se passe pas très bien dans une des entreprises formatrices, ça se passera peut-être mieux dans la suivante. Et donc je pense qu'il y a vraiment... quelque chose qui décharge et les apprentis et les personnes formatrices dans ces différentes entreprises. Puis peut-être le dernier point qui pourrait être intéressant, alors je ne sais pas dans quelle mesure les différents formateurs et formatrices de ces réseaux communiquent entre elles et eux, mais j'imagine qu'ils sont un petit peu obligés de le faire. Et donc ça permet de sortir de l'isolement aussi cette figure de formateur, formatrice en entreprise, qui sinon sont souvent un petit peu seuls dans leur entreprise, quand c'est des PME ou des micro-entreprises, avec peu l'occasion d'échanger avec d'autres personnes formatrices. Donc je pense que pour toutes ces raisons, c'est vraiment un modèle à suivre.
Et Vira, vous confirmez sur le terrain, vos formateurs, formatrices se sentent moins seuls ?
Alors totalement, ce qui a été dit par Madame Lalambra est effectivement vrai. Le réseau, c'est un réseau. Les gens doivent travailler entre eux dans le but de former un apprenti et du bien-être de l'apprenti également. Et c'est vrai que si un apprenti ne pourra pas fournir son travail dans une entreprise, on va nous le déplacer assez rapidement. Et toute la partie administrative, elle est supportée par la structure et non par le formateur qui, dans l'autre entreprise qui n'est pas en réseau, devra gérer ça par lui-même. Donc on apporte quand même une sérieuse aide à la formation professionnelle dans ce genre de formation.
Nous allons nous intéresser maintenant à un secteur qui peine à recruter et à former la relève. Nous avons rendez-vous chez Bechnider SA à Clarens avec Cédric Cohen, maître ferblantier, et Michel Anger, commissaire professionnel.
On va passer aux choses sérieuses, contrôler un peu ces pièces. On va regarder aussi notre rapport de formation. Les notes théoriques, tu les as, les dernières.
Bien, en théorie, on a 4,9, donc hein, un bon résultat, ça ne me fait pas trop soucier. C'est vrai que par contre, la pratique, eh ben, je te laisse un petit peu regarder ce que tu penses.
Je vois que le bombage, il n'y est pas.
Non, on a pris la décision ensemble.
De ne pas le faire, d'accord.
Ce ne sont pas des choses qui seront forcément traitées à l'examen.
Là, ils sont en train de regarder un pot à lait qui a été fait.
Par contre, c'est relativement bien rond, c'est bien proportionné. Le couvercle, il rentre. Avec, malgré tout, quelques détails à soigner, hein, cette soudure.
Oui, mais j'aurais pas dû souder sur toute la longueur aussi. Non. Je pense que...
Mais...
Il est en apprentissage, donc c'est clair qu'il y a... Le but de faire ce genre de pièce, ben, c'est clairement que les choses ressortent, en fait. Donc je pense qu'il y a des belles choses, il y a des belles progressions. T'es quand même plus fin, de plus en plus fin. Puis t'as pris conscience de ce que tu devais perfectionner aussi. Donc je pense que c'est bien, comme ça.
Michel Angers, vous parcourez tout le canton de Vaud, hein, vous allez voir tous les ferblantiers. On est au début du mois de juillet. Est-ce qu'il reste encore beaucoup de places d'apprentissage qui sont libres? On n'a pas trouvé d'apprenti.
Oui, non, en effet, on a un petit peu une pénurie depuis quelques années dans ce magnifique métier. Pourquoi comment? C'est un petit peu difficile de savoir. Il y a peut-être des a priori. On donne un petit peu trop de chance à la voie académique. Politiquement parlant, si j'ose, depuis trop longtemps, on favorise beaucoup cette voie. L'année passée encore, 50 classes de collège qui s'ouvrent, et finalement, un petit peu tout le monde, les parents aussi, préfèrent, en tout cas dans un premier temps, que leurs enfants aillent aux études, parce qu'à la limite, ils savent peut-être même pas ce qu'ils veulent faire. Ils n'ont pas fait de stage. Les formateurs que je visite dans tout le canton se plaignent d'une chose. Ils disent « Michel, t'es gentil de passer, mais amène-nous des apprentis ».
Cédric Cohen, vous avez eu des stagiaires cette année?
J'en ai eu deux suite au Salon des métiers, qui ont décidé finalement de partir plutôt dans le monde de la serrurerie, qui est un métier qui est très proche du nôtre finalement, mais qui travaille des tôles bien plus épaisses. Hein, donc la direction était la bonne, mais pas forcément complètement. Donc le stage est là pour ça, clairement. Et le deuxième stagiaire que j'ai pris, je l'ai pris, donc est venu s'intéresser à ce métier, connaissait déjà bien le métier pour l'avoir pratiqué dans son pays. Lui, je l'ai pris en apprentissage, ouais, voilà. Donc, mais c'est un stagiaire qui a déjà 21 ans, qui a déjà un petit peu trotté dans toute l'Europe. Et maintenant, va commencer son apprentissage depuis août. Voilà, donc j'ai la chance d'avoir un des 10 apprentis du canton de Vaud pour voler
contrat, nouveau contrat de
2022.
Et il y a combien de places? Il y a combien de places disponibles?
Il y en a 25.
Vous cherchez 25 apprentis et puis vous ne les trouvez pas, quoi?
Ça fait depuis 3 ou 4 ans, oui, où les effectifs, on a actuellement en deuxième année 12 apprentis, en première année, enfin, ex-première année, 12 aussi, puis là, pour l'instant, une petite dizaine qui vont commencer.
Ça vous inquiète pour la suite du métier?
Oui, beaucoup. Oui, c'est inquiétant. Pour la relève, ben, ça va être compliqué d'ici quelques années, en effet.
C'était un reportage signé Catherine Erard. Yves Girard, comment vous y réagissez? Est-ce qu'on favorise effectivement trop la voie académique en Suisse?
Le souci était au départ. On veut mettre beaucoup de monde dans la voie académique et on devrait peut-être faire comprendre aussi à toutes les filières, hein, que ce soit les offices d'orientation, les enseignants, les parents, que certains jeunes devraient peut-être commencer par la voie de la formation professionnelle avant de faire une maturité, ce que l'on souhaite aussi. On a aussi besoin de gens qui se forment. Voilà, je suis un peu pas totalement convaincu de ce discours de dire on favorise trop la voie académique, mais je pense non, on devrait peut-être mieux la réguler. Par contre, il y a aussi le problème du nombre d'entreprises qui forment, qui peut poser un problème. On a de moins en moins d'entreprises formatrices. Donc forcément, on donne aussi moins aujourd'hui de places d'apprentissage. Je prends mon secteur. Il y a quelque temps, quelques années en arrière, on avait 120 places d'apprentissage. Aujourd'hui, il en reste 70-80. Donc c'est pas forcément tout dans le domaine de l'orientation que ça se passe. Ça se passe aussi au niveau de la sauvegarde des entreprises formatrices.
Nadia Lamamra, on dit que 2/3 des jeunes en Suisse choisissent encore aujourd'hui la voie de l'apprentissage et que le CFC est donc le diplôme le plus décerné. Comment est-ce que ça se répartit sur l'ensemble de la Suisse? En fait, il y a des disparités assez fortes entre la Suisse alémanique et la Suisse romande.
Oui, alors là, il y a vraiment des écarts cantonaux qui sont assez gigantesques. Et puis ça permet aussi de peut-être revenir simplement sur ces discours actuels hein, qu'on a tendance à favoriser la voie générale. Donc je me suis amusée l'autre jour à faire des petits calculs à partir des données de l'Office fédéral de la statistique sur les diplômes décernés. Donc je crois que c'était en 2019. Donc on a 44 000 CFC pour 10 000 maturités générales. Donc on est encore assez loin de ce rattrapage de la voie générale sur la voie professionnelle. Par contre, c'est vrai qu'on a des disparités cantonales importantes. Alors à Uri par exemple, c'est le plus haut taux en Suisse, on a 82% des jeunes qui suivent une formation professionnelle et à Genève on est à peu près à 36%. Donc là effectivement, selon le canton, on n'est pas du tout dans la même situation. Il y a des questions de tissu économique, de culture, d'histoire cantonale aussi hein, et de peut-être d'influence aussi des modèles des pays limitrophes, dans la France d'un côté, l'Allemagne de l'autre.
On entendait aussi dans le reportage que certains jeunes quittent un apprentissage dans certaines filières. Les ruptures d'apprentissage, ça représente environ 20% des cas. Yves Girard, dans quel contexte est-ce que ça peut intervenir? Pour quelles raisons?
Les ruptures d'apprentissage interviennent pour beaucoup de raisons. Pas forcément pour les apprentis, comme beaucoup le pensent, hein, à cause des apprentis. Il y a des mauvaises orientations qui peuvent être déjà au départ. Moi, ce que je vois aussi, c'est des fois les parents insistent un peu pour trouver une place d'apprentissage, non pas trouver dans le secteur qui était le premier secteur du choix. On en fait un autre et puis ça se passe pas forcément bien. Donc il y a toute une palette ou tout un circuit de problèmes qui peut intervenir dans la rupture. Pour moi, déjà au départ, il y a du 50-50, autant dans l'entreprise que au niveau de l'apprenti, qui peut permettre ou mener à une rupture, mais entre autres, plus elle est faite vite et rapidement au début de la formation, mieux c'est pour tout le monde. Ce qui est dommageable, c'est les ruptures en deuxième ou en troisième année, parce qu'on a maintenu des personnes dans des structures qui finalement n'étaient pas les leurs. Voilà, moi je vois pas mal de jeunes qui sont déstabilisés en deuxième ou en troisième année quand ils perdent leur place de travail, et c'est normal. Quand ça intervient encore dans le temps d'essai, c'est déjà moins dommageable, bien que ce soit jamais des choses simples à régler.
Nadia Lamamra, le risque de rupture est évidemment plus grand quand c'est pas un premier choix. L'apprentissage.
Oui. Alors effectivement, quand on avait fait notre étude, la première étude qu'on avait menée sur les résiliations de contrats d'apprentissage, on l'avait réalisée dans un contexte de pénurie de places d'apprentissage, donc on avait beaucoup de choix par défaut. Donc effectivement, la question, le facteur de l'orientation a été augmenté par cet élément-là. Donc on avait choisi faute de mieux, donc il n'y avait pas de place dans le métier choisi, et donc on était allé ailleurs. C'est clair que si on choisit par défaut et que ça se passe pas bien, qu'il n'y a pas une bonne relation au travail, que les conditions de formation ne sont pas optimales, on va s'arrêter. Donc c'est vrai que arrêter une formation, c'est toujours une kyrielle de raisons hein, cumulées. C'est pas, on n'arrête pas pour une seule raison, y compris quand on a fait un choix par défaut, on n'arrête pas que pour ça, mais on arrête parce que ce choix par défaut s'inscrit dans un contexte où ça se passe pas forcément très bien, où on n'est pas, c'est pas très motivant, évidemment. Je pense que, effectivement, il faut que ça se passe relativement rapidement, même si 60% des résiliations se passent pendant la première année. Peut-être l'autre chose qui est importante et vraiment sur laquelle nous, on avait beaucoup insisté à la fin de cette première étude, c'est de privilégier le dialogue pour que la résiliation se fasse vraiment de la part des deux parties. Et donc, que ce soit vraiment quelque chose de discuté. Les résiliations qui avaient été, pour nous, vécues de la manière la plus dramatique par les jeunes, c'est celles qui sont unilatérales, que ce soit du côté de l'apprenti ou du côté du patron ou du formateur.
Et pour revenir sur la réputation même des apprentissages valorisés à l'étranger, on le disait en début d'émission, on dit que 85% des jeunes avec un CFC trouvent un travail dans les 3 mois qui suivent leur diplôme. Alors, quels sont les moments les plus critiques? Est-ce que c'est avant
Oui, alors si on compare avec nos voisins, je pense à la France, l'Espagne, l'Italie, qui ont un taux de chômage juvénile très important et qui se concentrent beaucoup sur la période d'intégration sur le marché du travail, en Suisse, on n'a pas forcément cette problématique-là. On a un taux de chômage juvénile qui est très faible, parce que aussi lié au taux de chômage général qui est beaucoup plus bas que dans les pays voisins. Et effectivement, la question de l'insertion, elle se passe en amont, en fait, pendant la transition 1, donc le passage de l'école à l'apprentissage. Et c'est là que c'est un petit peu plus délicat. On a quand même 25% des jeunes qui n'entrent pas directement dans une formation du secondaire 2, qui passent par ces fameuses structures de transition, ces solutions transitoires, pendant une année, deux ans, parfois trois ans. C'est vrai que la problématique, elle se passe plutôt à ce moment-là. Et puis effectivement, une fois qu'on est entré dans une formation professionnelle et qu'on l'a menée à bien, il y a effectivement assez peu de difficultés, notamment pour les personnes qui ont choisi un apprentissage dual, où on entre assez facilement dans une première place de travail, même si ce travail n'est pas forcément un CDI, n'est pas forcément dans le domaine où on s'est formé, etc. Donc la précarité du jeune travailleur, elle existe aussi.
Cependant, c'est assez compliqué peut-être pour des personnes qui ont parfois entre 16 et 18 ans, qui doivent savoir écrire un CV et qui se retrouvent aussi en concurrence peut-être avec des personnes beaucoup plus âgées. C'est assez violent de vivre ça, non ?
Oui, alors effectivement, c'est une des grandes problématiques et de la recherche, mais aussi de la politique éducative suisse, cette question de la transition école-travail. C'est effectivement un choc, ça peut être vraiment vécu de manière très très douloureuse. C'est un choix qui se fait précocement en Suisse, puisque pour avoir une place d'apprentissage quand on sort à 15 ans et demi, 16 ans, ça veut dire qu'on a commencé à chercher et on a dû se faire une idée du métier qu'on allait avoir envie de faire à 14 ans. C'est extrêmement tôt et c'est vrai que parfois, selon les branches, quand c'est des métiers relativement prisés, eh bien, il faut écrire 100, 200 lettres de candidature avant de trouver une place d'apprentissage et ça peut être assez déstabilisant.
Et vous, Yves Girard, quel peut être votre rôle dans ces moments-là, dans ces moments compliqués pour les jeunes qui s'adressent à vous ?
C'est déjà de travailler un peu avec eux. Je veux dire, moi, j'accompagne pas mal de jeunes dans cette période. Et je rejoins ce qui a été dit, la sortie de l'apprentissage en Suisse, il faut dire merci à la formation professionnelle que l'on a. Si on voit que 80% des jeunes arrivent à trouver une première place de travail à l'issue de l'apprentissage, c'est quand même quelque chose de merveilleux. Ça, on peut s'en réjouir. Effectivement, c'est l'entonnoir du début de la formation qui peut poser un problème. C'est tous ces jeunes qu'on n'arrive pas à, ou qui n'arrivent pas à trouver une place et qui se mettent en attente une année, deux ans. C'est durant cette période-là que les parents ont un rôle à jouer énorme. C'est peut-être de leur trouver, en attendant, d'autres voies. Il y avait dans le temps, et dans le canton de Vaud, il y a des pistes qui ressortent, d'inciter les jeunes à partir en Suisse alémanique, comme ça se faisait, pour apprendre l'allemand, pour s'ouvrir à d'autres horizons. Mais effectivement, cet entonnoir où on doit mettre les jeunes en position d'attente dans des structures... Ça, c'est, je pense, dommageable pour l'apprenti parce qu'il peut se décourager. Et là, on a peut-être, je vois dans certaines structures, des formations qui se font dans des ateliers. Oui, c'est bien, mais il faut faire attention non plus de ne pas décourager les jeunes à rentrer dans le métier. Mais pour moi, ça se passe quand même relativement bien dans notre pays à ce niveau-là.
Nous terminons donc sur une note positive et nous sommes déjà au terme de cette émission. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir répondu à l'invitation des Échos de Vacarme. Belle suite de dimanche à tous les deux. Yves Girard, je rappelle que vous êtes secrétaire patronal de l'Association des boulangers, pâtissiers, confiseurs vaudois et directeur de boulangerie et confiserie formation Vaud. Quant à vous, Nadia Lamamra, vous êtes sociologue, professeur à la Haute École Fédérale en formation professionnelle. Et je signale aussi que l'exposition Au cœur de l'apprentissage, organisée par Vos Soins, sera visible à la Cité des Métiers à Genève du 22 au 27 novembre prochain. À bientôt.
À bientôt, merci.
Merci beaucoup.
Très grand merci à Catherine Erard, Jean-Daniel Mottet, Stéphanie Coudray, Diane Dufaux, Stéphanie Jovanovic, Jérôme Nussbaum, ainsi qu'à nos collègues de la RSI à Lugano. La semaine prochaine, nous nous immergerons dans le monde des jeux d'argent, casino, tickets à gratter, tirage du loto. Qui n'a jamais caressé l'idée de devenir millionnaire du jour au lendemain sur un coup de chance? Dans les 5 reportages proposés par Jonas Paul, nous questionnerons notre rapport au hasard, mais aussi les enjeux éthiques que soulève le jeu, car il crée du rêve, mais aussi de la dépendance. Le jeu de l'argent et du hasard, c'est une nouvelle série à découvrir demain dès 13h dans Vacarme.